Ruth, chapitre 3, et nous continuons donc notre série. Nous allons lire le chapitre 3 en entier. Ruth et Naomi sont arrivés à Bethléem. Ruth est sortie pour glaner, pour chercher de la nourriture, et par bonheur, dans la souveraineté de Dieu, dans la providence de Dieu, elle se retrouve dans le champ qui appartient à Boaz, un parent. Et nous lisons la suite de l'histoire. Donc, Ruth chapitre 3, à partir du verset 1. Voici la parole de Dieu. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple, sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. » Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, « Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. » Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. » Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère, et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces six mesures d'orge, en disant, « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Et c'est la parole de Dieu. Nous avons vu que cette histoire est une histoire d'amour entre Boaz et Ruth, mais derrière cette histoire, il y a une histoire d'amour plus grande, l'amour de Dieu pour ses créatures, pour son peuple. Le chapitre 3 commence avec Naomi, la belle-mère de Ruth. Il y a environ 3 mois se sont écoulés entre la fin du chapitre 2, le début des moissons, et le début du chapitre 3. Naomi et Ruth s'entendent bien, et Ruth aime sa belle-mère. Et Naomi exprime ici, au début de ce chapitre, ce qu'elle a sur son cœur, ce qu'elle désire pour sa belle-fille. Les deux ont beaucoup de choses en commun. Les deux, chacune, a perdu un mari. Elles ont quitté la terre natale de Ruth. Ruth est arrivée dans un pays qu'elle ne connaît pas, où elle ne ressemble pas aux autres jeunes femmes. qu'elles ont traversé des épreuves ensemble. Et ce que Naomi désire, elle l'exprime ici au verset 1. « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Le terme qui est traduit ici par « repos » est un terme qui est très fort en hébreu. C'est un terme qui signifie « trouver la sécurité », être établi, se poser, être, se sentir confiant, trouver la paix profonde, la paix parfaite. Je voudrais que tu trouves ton repos au lieu de toute cette tourmente, de ce chagrin que tu as connu. Et c'est intéressant de noter ici que le petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-fils de Naomi, le Seigneur Jésus-Christ, utilise le même langage de Naomi quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. C'est la stabilité, la paix, c'est d'être établi, d'être rempli de confiance. Voilà le genre de paix que les gens cherchent, même aujourd'hui, mais ils regardent au mauvais endroit. Ils cherchent la paix dans les plaisirs, dans la connaissance, dans les relations ou dans la réalisation de certains objectifs, mais ils ne la trouvent pas. La réponse de la Bible à cette question, c'est que nous trouvons la véritable paix, le véritable repos dans une relation vivante avec Dieu par Jésus-Christ. Et Naomi veut que sa belle-fille trouve le repos. Et la solution à ce problème se trouve dans ce qu'elle dit au verset 2 et suivant, au sujet de ce qui se passe dans les champs autour de Bethléem. Ruth est sortie tous les jours pour suivre ceux qui moissonnaient. On a vu que la loi autorisait les pauvres et les étrangers à suivre les moissonneurs dans le pays d'Israël et à ramasser ce qui avait été laissé pour pouvoir se nourrir. C'est ce que Ruth a fait depuis son arrivée à Bethléem. Et depuis le premier jour, elle s'est trouvée dans les champs appartenant à un personnage très important, un dénommé Boaz. La solution de Naomi pour résoudre le problème de Ruth, pour trouver le repos, se trouve en Boaz, parce qu'elles ont découvert quelque chose à son sujet. Et Naomi le redit au verset 2, « Il est notre parent ». Boaz est un parent, et comme nous allons le voir, cela le place dans une position où il peut potentiellement aider ces femmes en faisant quelque chose pour elles, quelque chose de bien spécifique. Il peut les aider en étant capable de racheter Ruth. On va expliquer ces termes dans un instant. Mais ces deux mots, parent et rédempteur ou rachat, sont importants pour bien comprendre ce qui se passe. Ce qui est excitant pour Naomi, c'est que Boaz est un rédempteur potentiel. Et cela a des implications très pratiques pour leur survie, mais aussi pour le bonheur de Ruth, son bonheur dans cette vie, mais aussi son bonheur éternel. On apprend trois choses au sujet de ce rédempteur. Il est qualifié pour les racheter, il est digne de les racheter, et il est déterminé à les racheter. Premier point donc, Boaz est un rédempteur qui est qualifié pour les racheter. Si on revient à la fin du chapitre 2, verset 20, Naomi dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Cet homme dont tu as accidentellement croisé le chemin, cet homme qui t'a remarqué, qui a posé des questions avant de te rencontrer, cet homme est un proche parent. C'est un de ceux qui a le droit de rachat. On a vu que Boaz était intéressé. C'est un homme de bien, mais il a partagé son repas avec Ruth. Mais techniquement, du moins comme Naomi le comprend, Boaz est dans une position privilégiée où il peut les aider. Ce mot « parent », on le comprend, mais le mot hébreu est différent de notre mot français, même s'il a cette connotation. Et le mot « rédempteur », avec ce mot « parent », on a deux mots que l'on n'utilise pas tous les jours. Et on est en train de décrire ici quelque chose qui appartient à une autre culture et une coutume ancienne. Alors on va mettre ces deux mots, parents et rédempteurs, dans leur contexte. Le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, était une nation, c'était un État, ce n'était pas une Église. C'est une nation devant Dieu, c'est une théocratie. Pas une démocratie, mais une théocratie. L'Éternel, Yahvé, était le roi, le Seigneur de l'Alliance. C'est lui qui a appelé Israël hors d'Égypte. C'est lui qui a gardé le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. C'est lui qui les a fait traverser le Jourdain pour qu'ils entrent dans la terre de la promesse, qu'ils entrent dans ce pays où coule le lait et le miel. Et Dieu a donné à chaque tribu une partie de cette terre. Et chaque famille avait son terrain dans le pays, dans la terre de la promesse. Ils occupaient cette terre non pas comme des propriétaires fonciers, mais comme des fermiers locataires. La terre appartenait à l'Éternel. Et il leur avait donné la terre en cadeau. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas la vendre n'importe comment. Parce que la terre appartenait à chaque famille comme un signe que Dieu voulait la donner à son peuple comme héritage. C'était une partie de la bénédiction de Dieu. Et c'est là que nos deux mots interviennent. Le mot « parent » parle des devoirs de quelqu'un qui était très proche. Parce que lorsque Dieu a appelé ce peuple à sortir d'Égypte, il les a appelés à une relation particulière avec lui, mais aussi à une relation particulière les uns avec les autres. Et si un homme se mariait, mais mourait, décédait avant d'avoir des enfants, la veuve devait se marier dans la famille pour garder le nom du défunt. Elle pouvait se marier avec un frère ou un cousin ou un autre homme dans la famille. Et si elle avait des enfants de ce deuxième mariage, les enfants étaient considérés comme étant les enfants du défunt. La veuve ne pouvait pas se remarier en dehors de la famille, en dehors du clan, en dehors de la tribu, parce que le but était que l'héritage du défunt ne quitte pas sa famille. Deutéronome 25, verset 6 nous donne la raison. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Et de cette manière, l'héritage était préservé dans la famille. Le deuxième mot, rédempteur, vient ajouter quelque chose. Non seulement la personne est qualifiée parce qu'elle est un proche, un parent, mais un rédempteur est quelqu'un qui a le potentiel d'acheter la liberté d'une personne ou de racheter les biens qui ont été perdus suite à une erreur. Et on va lire deux passages dans Lévitique 25. Le premier, Lévitique 25, versets 25 à 28, nous dit « Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat, et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur, et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé, c'est-à-dire tous les 50 ans. Au jubilé, il retournera dans sa propriété, et l'acquéreur en sortira. » Le rachat était une provision que Dieu avait faite dans sa loi. La propriété retournera toujours à la famille d'origine, même si c'est au bout de 50 ans. Et Dieu avait à cœur cette idée d'héritage dans la terre de la promesse. Mais il n'y a pas seulement l'idée de racheter une personne, il y a aussi l'idée de racheter une propriété, il y a aussi l'idée de racheter une personne. Toujours en Lévitique 25, un peu plus loin, versets 47 à 49. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat, après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Pourquoi est-ce que c'était important d'avoir ces choses écrites dans la loi de Dieu. Que le peuple et la terre étaient si importants pour Dieu. Dieu était entré dans une alliance avec eux. Il était dans une relation vivante avec eux, réelle. Et il dit en Lévitique 26, verset 12, « Je marcherai au milieu d'eux. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Dieu ne veut pas qu'ils soient perdus. Il ne veut pas qu'ils perdent la terre de la promesse. Il ne veut pas qu'ils soient chassés de cette terre. Cela fait partie de leur relation avec Dieu. Voilà donc l'arrière-plan, voilà le contexte du langage de Naomi. Et maintenant qu'on a donné l'explication, revenons à l'histoire. 3 mois se sont écoulés. 3 mois où rien n'a bougé. Chaque jour, Ruth est allée glaner derrière ceux qui moissonnaient. Chaque jour, Boaz a fait ce qu'il a déjà fait. Il a dit à ses ouvriers d'en laisser un peu plus pour Ruth. Et chaque jour, Ruth est rentrée avec un beau sac de grain. 3 mois se sont écoulés. Il y a eu peut-être d'autres occasions où Boaz a partagé son pique-nique avec Ruth, on ne le sait pas. Mais on sait que Ruth a bien travaillé. Et cela soulève la question. Est-ce que Boaz va ouvrir les yeux? Est-ce que Boaz va enfin se réveiller? On a envie d'aller lui tapoter la joue en lui disant, « Boaz, tu as des sentiments pour cette jeune femme. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas l'inviter à sortir? Tu t'inquiètes pour elle, tu veilles à ce qu'elle ait plus de grains que nécessaire, tu lui as dit de belles paroles. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Peut-être que Boaz se sentait trop âgé pour elle. Boaz avait entre 35 et 40 ans, Ruth est plus jeune. Remarquez qu'il la remercie au verset 10. Il dit « Sois béni de l'Éternel, ma fille, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas cherché des jeunes gens pour vous riches. » Non, Ruth a regardé Boaz. Et Boaz voit cela comme un grand honneur. Et Naomi dit de Boaz, voilà, c'est un parent, c'est un rédempteur. Boaz a le potentiel de les aider. Mais question, est-ce qu'il va le faire? Boaz est qualifié pour les aider. Et c'est cette qualification qui pousse Naomi à concevoir une stratégie. C'est une stratégie risquée. Mais Naomi croit en Dieu. Et vous noterez que croire en Dieu ne veut pas dire rester les bras croisés et se dire « si Dieu est dans l'histoire, ça va se passer. Si c'est la volonté de Dieu, cela va arriver. » Vous connaissez sans doute des personnes qui sont super spirituelles et qui disent « oh, si c'est la volonté de Dieu, cela va bien arriver. Nous ne ferons rien, nous ne bougerons pas. Si Dieu est dans l'histoire, cela va arriver. » Ces personnes attendent encore que la volonté de Dieu se fasse. Naomi n'était pas une de ces personnes super spirituelles. Elle croit en Dieu. Elle croit que Dieu a un plan. Elle voit ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Ruth est allée glaner. Elle est arrivée au champ qui appartient à Boaz, un parent. Et Naomi sait que Boaz est qualifié pour les aider. Est-ce qu'il va le faire? Elles ne le savent pas encore. Et Naomi et Ruth ne le sauront que si elles lui présentent leur cas, que si elles lui demandent de les aider. Et Naomi conçoit ce plan. Un stratagème brillant, risqué, un stratagème pour faire connaître leurs besoins et pour lui demander de les aider. Mais Boaz est qualifié, c'est un rédempteur qui est qualifié pour les aider. Deuxièmement, Boaz est un rédempteur digne de les racheter. Et ce mot digne est sans doute le mot clé dans toute cette partie. On se retrouve donc à la fin de la moisson. C'est le temps de vanner, le temps de séparer les grains de la paille. Et entre parenthèses, c'est intéressant de noter que les airs pour vanner, pour battre le grain, ont une place importante dans la Bible. Très souvent, ce sont des lieux de mise à l'épreuve, des lieux de décision, parfois même des lieux de jugement. Le temple de Salomon a été construit sur l'aire de battage d'Ornan, de Chroniques 3, verset 1. C'est là que Dieu a testé David. C'est là que Dieu l'a mis à l'épreuve, qu'il l'a passé au crible. C'est le même langage que Jésus utilise quand il parle de Simon-Pierre, qui sera tamisé comme le blé, passé au crible, vanné comme l'orge. Même le jugement final est décrit dans la Bible comme le fait de passer au crible avec la séparation du blé et du foin. Il y en a donc un lieu de mise à l'épreuve, un lieu de jugement ici, dans les champs de Bethléem. Boaz et Ruth sont mises à l'épreuve. Et on peut voir qu'il y a une ambiguïté qui est délibérée, qui est volontaire, qui est fait exprès dans l'approche de Naomi. Du point de vue de l'histoire, ça crée une tension supplémentaire. Qu'est-ce que Boaz va faire? Comment est-ce que Boaz va réagir? Et voilà l'idée de Naomi. Elle dit à Ruth, « Je veux que tu ailles prendre un bain. Tu mettras les meilleurs parfums, tu mettras du vernis sur tes ongles, tu remettras ta plus belle robe, tu sortiras juste avant le coucher du soleil pour voir où Boaz se couche. » Mais quelle est cette stratégie? Qu'est-ce qui se passe ici? Notez que les intentions, les motivations de Naomi sont pures. Si on revient à la fin du chapitre 2, on voit combien Naomi est excitée à l'idée que cet homme pouvait l'aider selon la loi. Elle ne peut s'empêcher de voir que c'est peut-être ce que Dieu a préparé pour elle. Et Naomi veut voir si c'est l'opportunité qu'elles attendaient, elle et Ruth. Et on peut voir comment Naomi réfléchit. Si seulement, est-ce que Boaz a des sentiments? Elle ne le sait pas. Nous savons que Boaz a des sentiments pour Ruth. Mais est-ce que Naomi, elle ne le sait pas? Boaz est plus âgé, Ruth est plus jeune. Dans cette société, si une jeune femme était plus jeune, elle n'allait pas s'adresser à un homme plus âgé pour lui demander de sortir avec elle. De plus, c'est le propriétaire, c'est le patron. Et Ruth n'est même pas une employée. Ruth est moins qu'une employée. Boaz est un homme respectable dans la communauté. Ruth, ne l'oublions pas, vient de Moab. Et les gens de Moab n'avaient pas une bonne respectabilité. Ce sont les femmes de Moab qui avaient conduit les Israélites dans le péché. Les Moabites étaient méprisés. La chose à ne pas faire, c'était de se trouver avec un ou une Moabite. Alors imaginez faire la jeune cour à une jeune femme de Moab. On peut imaginer le regard méprisant des Juifs autour. Alors comment Boaz pouvait-il savoir? Ruth ne pouvait pas simplement aller vers lui et lui dire « Excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes intéressé par moi. Si oui, je ne sais pas si vous êtes intéressé à m'épouser. » Mais si vous l'êtes, sachez que je le suis, que je suis intéressé. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, même pas aujourd'hui. Alors Naomi conçoit ce stratagème. Et cela commence avec la préparation de Ruth pour cette rencontre. Il n'y a rien de mal dans le fait de bien s'habiller, de s'apprêter, de mettre un peu de parfum. Les motivations de Ruth sont pures, elle le redit au verset 9. Et donc une fois que Ruth est préparée, elle va retrouver Boaz. Elle va lui dire, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et Ruth utilise les mêmes mots que Boaz a utilisés quand il s'est adressé à elle la première fois. Rappelez-vous, au chapitre 2, verset 12, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et voilà que Ruth dit à Boaz, « Étends ton aile sur ta servante. » Elle utilise les mêmes mots en s'adressant à Boaz, mais elle lui suggère, « Peut-être que le Dieu d'Israël qui m'a prise sous ses ailes veut utiliser toi comme un instrument humain pour m'apporter la sécurité sur terre, ce qui est un reflet de sa sécurité céleste. » Et c'est Ruth qui le dit. Ce n'est pas Naomi. Ruth révèle qu'elle est une femme qui a bien écouté la loi de Dieu, qui a médité la loi de Dieu, qui sait ce que la loi de Dieu exige, qui aime la loi de Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui est prête à l'utiliser. Elle la comprend, elle la connaît. et elle l'utilise. Et elle arrive avec des motivations pures. Naomi, elle est pressée de pousser la porte de l'opportunité. Et en fait, elle met Boaz et Ruth dans une situation risquée. Boaz, après tout, c'est un homme. Il est peut-être plus âgé qu'elle, mais c'est un homme. Et on peut voir les tentations d'un homme en face d'une jeune femme bien habillée, bien parfumée, qui se pose à ses pieds au milieu de la nuit. Il y avait là un problème potentiel. Mais il y a des aspects comiques dans l'histoire. Que fait Ruth? Elle se dirige vers l'aire de battage. Il fait nuit, on est en Moyen-Orient. Ils ne sont pas près d'une grande ville, il n'y a pas d'éclairage public. Et quand il fait nuit noire. On ne peut pas voir sa main si on la met devant ses yeux. Et c'est pourquoi Naomi dit, observe le lieu où il se couche. En lui disant, regarde où il se couche pour que tu ne te trompes pas. Et c'est ce que Ruth fait. Elle traîne dans le coin, la nuit tombe. Tout le monde ronfle après une journée longue et harassante. Et Ruth s'approche de Boaz, découvre ses pieds et se couche aux pieds de Boaz. Vous allez me demander, mais c'est quoi ce truc de découvrir ses pieds? Rappelons-nous que nous sommes au Moyen-Orient. Même si la journée, les températures sont élevées, la nuit, les températures chutent, sont très basses. Il fait vraiment très froid la nuit. Alors quel est le meilleur moyen d'attirer l'attention de Boaz? Est-ce qu'il faut le secouer? Est-ce qu'il faut faire du bruit et réveiller tout le monde? Non, on ne veut pas ça. Non, la stratégie est de lever la couverture. Et les pieds vont commencer à se refroidir. Et Boaz va se réveiller. Et il se réveille d'un coup. Verset 8, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se réveille, les pieds froids. Il se retourne. Et voici une femme était couchée à ses pieds. Quelles sont les chances pour que cela arrive dans les champs de Bethléem au milieu de la nuit? Il se réveille et une femme se trouve à ses pieds. Il sent son parfum avant de la voir. Et quelque part, c'est comique, on peut comprendre le choc. Boaz aurait pu mourir d'une crise cardiaque. Mais c'est une histoire étonnante, c'est une histoire remarquable. Ce stratagème a suscité l'attention de Boaz. Ruth a du cran. Dans cette culture, les femmes ne demandaient pas les hommes en mariage. Les jeunes ne demandaient pas les plus âgés en mariage. Une ouvrière ne demandait pas au propriétaire. Ruth agit contre la culture de son temps. Et ses motivations étaient pures, même si la stratégie comportait des risques. Qu'est-ce que Boaz allait faire? Et Boaz, dans sa réponse, réalise que tout de suite que Ruth est une femme vertueuse. Il ne la renvoie pas, il ne rejette pas son audace, il reconnaît son valeur. Il dit à la fin du verset 11, « Toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Faisait des jugements à la porte de la ville, c'est l'expression « toute la porte de mon peuple » reconnaît, tout le peuple sait que tu es une femme vertueuse. Notez que ce terme « vertueux », c'est le même mot qui décrit Boaz au chapitre 2, verset 1. Notre traduction dit « un homme puissant et riche », mais le terme original veut aussi dire « vertueux », qui est de la valeur. Et Boaz est en train de dire que pendant ces trois derniers mois, où Ruth a été dans les champs pour glaner, les gens l'ont vu et les gens lui rendent ce témoignage. Ils connaissent son histoire, ils connaissent sa conversion de l'idolâtrie pour suivre le Dieu d'Israël. Il voit quel genre de personne elle est, qu'elle a été prête à tout quitter pour suivre sa belle-mère, qu'elle est allée glaner tous les jours pour pourvoir aux besoins de sa belle-mère. Tout le monde disait de cette jeune femme qu'elle était vertueuse. Et c'est très important à le souligner, parce que dans l'histoire, en fait, elle reflète le caractère de Boaz. Boaz est un homme vertueux. Ruth est une femme vertueuse. On a deux personnes vertueuses, deux personnes qui craignent Dieu, deux personnes qui partagent une passion similaire pour les choses de Dieu. Et Ruth utilise le langage de Boaz en parlant d'être sous les ailes de Dieu et elle l'applique à Boaz en s'imaginant ce que cela peut vouloir dire. Que Boaz peut être l'instrument de Dieu et l'amener sous ses ailes. Être sous les ailes de Dieu. Peut-être que dans la providence de Dieu, cela implique que Boaz la prenne sous ses ailes. Elle s'attend à ce qu'il fasse ce qui honore Dieu pour elle, en la prenant, en prenant soin d'elle. L'air de battage révèle le caractère de chacun de ces personnages. Elle ne s'est pas approchée de lui dans la nuit pour le séduire, pour avoir une aventure d'un soir. Lui ne va pas abuser de cette opportunité qui est là à ses pieds. Non, il reconnaît que Ruth est une femme vertueuse. Et avant même que leur rencontre se termine, tout se met en place pour la suite. Est-ce que Boaz va s'impliquer dans cette affaire? Est-ce qu'il va l'aider? Troisième point, Boaz est un rédempteur déterminé à la racheter. Boaz dit à Ruth, oui, je peux t'aider, mais il y a un problème légal qu'il faut régler avant. Si je peux le régler, aussi vrai que l'Éternel est vivant, alors j'userai de mon droit de rachat envers toi. Reste ici, cette nuit. Il a un problème légal et il veut d'abord respecter ce que dit la loi. Il veut régler ce problème légal avant et que tout se fasse dans l'ordre. Et juste avant le lever du soleil, il lui dit « Rentre chez toi ». Et Boaz protège à la fois sa propre réputation, mais aussi la réputation de Ruth. Que personne ne sache que tu étais là cette nuit. Mais il fait plus que cela. Il lui donne cette merveilleuse expression de son amour. 6 mesures d'orge. C'est-à-dire l'équivalent d'un gros sac de pommes de terre. Naomi n'allait manquer de rien. Il y avait là suffisamment de provisions pour Naomi et Ruth. Et Boaz envoie un message à Naomi. Il lui fait savoir qu'il comprend la situation, qu'il comprend la panique de Naomi. Il comprend pourquoi elle a fait cela, même s'il a trouvé que c'était risqué. Mais son cœur est rempli de grâce pour elle et il l'invite à faire confiance dans la provision que Dieu va leur accorder. Naomi est revenue les mains vides, mais maintenant elle ne manquera de rien. Quand Ruth rentre chez elle, Naomi dit littéralement « Qui es-tu ?» Le visage de Ruth a changé parce que maintenant Ruth est amoureuse de Boaz. Quelque chose s'est passé qui a allégé le poids, qui a chassé les nuages de chagrin qui étaient sur son cœur, sur son esprit. Et alors qu'elle rentre chez elle avec ce gros sac de grains, sa belle-mère la regarde et lui demande « Mais qui es-tu » « Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-moi ce qui s'est passé. » Dieu a œuvré en accordant un rédempteur. Il y a un rédempteur qui est qualifié, un rédempteur qui est digne, un rédempteur qui est déterminé à nous racheter. Elle dit à la fin de notre passage, verset 18, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Ce chapitre parle de romance, mais il parle aussi de la romance de la rédemption sur une échelle bien plus grande, parce que le petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-fils de Boaz et de Ruth s'appelle Jésus. Il est le rédempteur du peuple de Dieu, le seul qualifié pour racheter les élus. Pourquoi Boaz était-il qualifié? Parce que c'était un parent, un proche de la famille. Pourquoi Jésus est-il qualifié de racheter son peuple? Parce qu'il a pris sur lui notre humanité, parce qu'il est devenu notre frère. Il a pris la chair et le sang pour sauver son peuple, des humains faits de chair et de sang. Il a pris sur lui notre humanité afin d'être qualifié pour être notre rédempteur. Il est digne de nous racheter, comme Boaz est digne de racheter Naomi et Ruth. Il n'y a rien dans la vie du Seigneur Jésus-Christ qui soit indigne. Tout est parfait, tout est sans péché. Et il est déterminé à racheter son peuple. Dans le désert, il est tenté par le diable. Il est déterminé à ne pas se détourner du chemin qu'il doit prendre pour sauver son peuple. Durant sa vie, il a été tenté de laisser la foule le couronner roi, mais il l'en a empêché. Il devait faire ce qui était nécessaire pour racheter le peuple que le Père lui avait donné. Il a été tenté dans le jardin de se détourner de ce qu'il attendait, de la croix avec la honte et la douleur, mais il n'a pas cédé. Boire la coupe de la souffrance que le Père lui donnait. Pourquoi? Parce qu'il était déterminé à traiter la question légale qui devait être traitée pour pouvoir nous racheter de notre esclavage au péché, de nous amener à prendre possession de l'héritage que Dieu a préparé pour nous. Et cet héritage n'est pas un terrain en Palestine, c'est le monde entier. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Jésus est mort non seulement pour nous racheter de l'esclavage du péché et pour nous donner la liberté, mais il est mort et ressuscité afin de nous donner l'héritage que Dieu a promis de donner à ses enfants avec son Fils. Il y a un Rédempteur. Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, le Messie. Quel repos d'être à l'abri sous ses ailes. Quel repos, Jésus, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Est-ce que vous connaissez ce Rédempteur? Que Dieu nous accorde la grâce d'être trouvés à l'abri sous ses ailes. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.